la favorite pour la victoire d'étape là chez Laurent Belay.
Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je regarde bien Alex Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franchlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonjour tout le monde, les commissaires de course, hein, ce vendredi 19 juillet 2019, pour parler de la 13e étape du Tour de France. Un contre-la-montre bien vallonné de 27,2 km. Avec moi pour en parler, Charles. Bonsoir Charles.
Salut Benjamin, bonsoir à tous.
On t'entend très mal, Charles.
Ah, vous m'entendez sur le chat ou pas?
Oui, là ça va mieux. Et Greg également, bonsoir Greg.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, on a décidé pour cette émission, moi, juste avant, je vais dire le podium de cette...
Qui a gagné,
Julian Alaphilippe qui conforte son maillot jaune devant Geraint Thomas et Thomas De Gendt. Alors, on a décidé pour cette émission de faire... de parler des flops, puis ensuite des coureurs, entre guillemets, neutres. Et après, des tops, tout simplement, pour parler d'un maximum de coureurs. On a essayé de ne pas se concerter avant. Donc, on va commencer avec les flops, tout simplement. Et Greg, je t'invite à en proposer un, notamment.
Je proposerais bien Romain Bardet. Hélas, je dirais, c'est un peu à la tristesse. Alors, il est assez loin, on va... Enfin, j'ai plus exactement son temps en tête, combien il finit, mais alors... Toute la dramaturgie autour, on apprend, il est 39e à 2,26 à la Philippe. Mais en plus, toute la dramaturgie autour du changement de vélo, le seul à changer de vélo, c'est lui. En plus, quand on écoute les raisons, c'est le vélo de contre-la-montre qui n'est pas bon. C'est à la fois, enfin, je suis partagé entre la tristesse et rigoler. Enfin, j'ai beaucoup de peine pour Romain Bardet, mais ça n'est presque ridicule. Et c'est triste pour lui parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, c'est un coureur, enfin, je trouve valeureux, courageux. Mais être loin, et cette histoire du vélo, on les voit en plus, ils sont débrouillés. Pauvre mécano, il n'était pas non plus dans la condition physique de sa vie. Voilà, c'est triste. Et même, enfin, toute l'équipe AG2R, d'ailleurs, j'ai regardé, il n'y en a que deux dans le. Enfin, donc il est 39e, Cohn-Frey est 97e, les autres sont en dehors du top 100.
Ouais, qu'est-ce qu'il a foutu, Charles? On se le demande, surtout que j'ai analysé les temps intermédiaires et sa meilleure partie, c'est sur les deux dernières, c'est-à-dire avec son vrai vélo de contre-la-montre, où il fait un super temps. Hein. Dans la dernière partie sur De Gendt, il perd 10 secondes, je crois. Mais n'importe quoi.
Bah ouais, t'as l'impression que c'est un peu un running gag quand même à G2R et les chronos depuis quelques années. Et, enfin, comme l'a dit Greg, on n'a vraiment même pas envie de se moquer, même si c'est un peu ridicule et que ça prête à sourire. Parce que enfin, Romain Bardet, il fait comme tout le monde des efforts énormes, des sacrifices énormes pour arriver à 100% au tour. Quand tu vois qu'il prend quasiment 2 minutes 30 sur un chrono de moins de 30 bornes, enfin, c'est gênant quoi. Pour un mec qui vise le podium sur le Tour de France, c'est quand même un gros souci, je pense. Il va falloir, à mon avis, à un moment, une grosse remise en cause chez AG2R, la mondiale.
Surtout qu'en plus, il est bien en dessous de ses temps de cette année et il est attendu de perdre une minute sur Thomas. Enfin, il a complètement foiré. Charles, est-ce que tu peux nous donner un autre flop?
Ouais, alors moi, il y a un autre coureur que j'ai trouvé qui a été très mauvais. J'ai été surpris parce que je pensais que c'était un contre-la-montre qui lui convenait pas trop mal. Alors, c'est Adam Yates. Il perd 2 minutes 8 sur le vainqueur Julian Alaphilippe. C'est énorme hein, sur 20 et quelques kilomètres. Et ça flingue quasiment, je pense, ses chances de podium, puisqu'on sait qu'Adam Yates n'est pas non plus le meilleur grimpeur du monde. Donc, très, très déçu par sa performance. Je ne sais pas s'il y a une explication quelconque, mais j'ai trouvé ça très décevant.
Surtout qu'on parle là d'un coureur qui a fait plusieurs top 5, top 10 de chrono cette année.
Bah ouais, en plus il a montré une
C'est
vraie belle forme depuis le début de l'année, donc c'est curieux.
sixième du contre-la-montre du Dauphiné libéré, par exemple. Pour ma part, c'est vraiment une grosse surprise. Autant Bardet, je m'attendais qu'il perde du temps, pas autant, mais Adam Yates, Greg, c'est vraiment la grosse surprise parmi les favoris niveau temps concédé.
Ben, c'est quand même un coureur, on a du mal à situer son niveau hein, depuis le début du tour finalement, parce que si on regarde ses places, on l'a jamais vu tellement aux avant-postes. C'est vraiment un peu une énigme, hein, un peu même son frère. Alors son frère, on savait que, et étant donné qu'il a fait le Giro, il n'allait pas venir pour gagner le tour. Même lui, enfin, on le sent un peu en dedans. Hein. Alors peut-être que finalement, maintenant qu'il est un petit peu loin, il va plutôt se concentrer sur les étapes que sur le général. Mais c'est vrai que c'est aussi une déception, mais plus globalement, surtout depuis le début du Tour de France, parce qu'il y avait des arrivées qui pouvaient lui correspondre. Hein. Saint-Étienne, la planche des Belles Filles, je pense que c'était, ou même Épernay, je pense que c'était des arrivées qui pouvaient lui correspondre.
Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas, il a pas répondu présent encore. Alors on pouvait attendre qu'il se réserve, mais pas du tout. Enfin, là maintenant il va être obligé de se découvrir, on va voir. Pour ma part, le coureur que j'ai choisi là, c'est Nairo Quintana. Parce que Nairo Quintana, il faisait le tour idéal jusqu'à maintenant. Il avait notamment pris la bordure, enfin. Il avait réussi à être dans la bordure vers Albi. Et là, patatras, il perd 1 minute 51 sur Alaphilippe. Donc ça fait environ 1:35 sur Geraint Thomas. Mais c'est énorme, notamment au-delà du temps, par rapport aux autres coureurs. Je citerai par exemple un autre flop que j'ai mis. C'est Mikel Landa qui perd 1:45. Je le mets en flop parce que ben, il avait déjà perdu beaucoup de temps. Mais qui termine quand même devant Nairo Quintana. Et là, ça pose des questions, Charles, sur la suite du tour. Et en même temps, on peut se dire peut-être que Quintana va devoir véritablement être offensif. Et s'il est vraiment fort en montagne, il va devoir le montrer.
Bah, c'est ça qui est gênant, tu vois, tu donnais des comparatifs et je trouve que c'est une bonne idée. Moi, il y a un autre nom qui m'a marqué, c'est Fabio Aru. Fabio Aru, il ne vise pas le classement général et il finit quand même devant Nairo Quintana, Dan Martin, Adam Yates et Romain Bardet. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Enfin, du mal à comprendre que des grimpeurs, quand on les compare entre eux, ceux qui sont censés viser le général finissent derrière ceux qui n'ont pas forcément d'objectif particulier sur ce chrono quand même.
Greg Quintana, qui du coup, au classement général, se fait passer par Pinot et Uran, c'est-à-dire qu'il perd l'avantage sur ses coureurs de la bordure à Albi.
Voilà, donc ça lui fait maintenant 3,55 sur Alaphilippe. Donc bon, ça commence à faire beaucoup, même ça fait quoi 2,40, enfin 2,30 sur Geraint Thomas. Ça fait beaucoup, et après à voir s'il aura les jambes pour aller attaquer en montagne, pour lancer de grandes offensives. Maintenant, plus globalement, les Movistar, hein, puisque tu parlais de Landa aussi, ben, vont être un petit peu condamnés à ça.
Pourtant, l'équipe est
C'est-à-dire,
forte, hein, parce qu'elle fait
ben oui,
second
hein,
du classement
finalement.
par équipe
Et c'est
autour du.
Valverde qui fait le meilleur temps, parce qu'on parle souvent hein, du problème des. Il y a beaucoup de leaders chez Movistar, c'est celui, alors peut-être qu'il joue le moins le général, qui se retrouve eh bien devant.
On va voir dès demain si Movistar ne retombe pas dans ses mauvais travers. Et on espère, de toute façon, ils sont condamnés à cela, à une course offensive dans leurs Pyrénées, notamment, on rappelle, c'est une équipe espagnole. Et ils auront forcément leurs supporters dans les Pyrénées. Est-ce que vous avez un autre coureur, messieurs, à citer dans les flops? Ouais,
Ouais.
Charles.
Ouais, bah Tony Martin. Moi,
Alors,
je trouve qu'il y a
expliquez-nous.
un gros manque de respect quand même pour le Tour de France. Quand tu vois un mec qui a été plusieurs fois champion du monde du contre-la-montre et qui respecte pas du tout l'institution, qui finit 163e à 6,45. Enfin, je trouve ça assez lamentable en fait. Quand on est sur le Tour, il y a tellement de coureurs, de mecs qui voudraient être à sa place que, enfin, même s'il doit bosser demain pour Kreuzvik, enfin, à un moment, tu dois un minimum respecter. Le Tour de France, enfin l'institution, et c'est pas ce qu'a fait Tony Martin.
D'ailleurs, concernant cela, je suis choqué parce que je me dis que Tony Martin, je le vois même pas passer forcément le Soulor si ça bagarre dans le Soulor. Je n'ai pas compris pourquoi il s'était réservé en fait. Alors peut-être il est cramé, mais
Il va pas
quand
rouler pour Kreuzvik dans le Tourmalet, hein. De toute façon, il n'en a pas la capacité, donc.
même.
Moins qu'il soit malade, enfin voilà, c'est
Oui. Ouais.
l'hypothèse quand même à voir
Mais.
les jours suivants.
Greg, toi, tu avais un autre coureur, j'ai l'impression.
J'aimerais bien citer Bernal,
Oui, tout à fait,
Parce
c'est
que je
celui que
pense
j'avais
que
également.
beaucoup d'entre nous attendaient de voir, parce que à Ineos, pareil, on se disait, est-ce que c'est pas le petit jeune Colombien qui va aller bousculer le Britannique pour être le vrai leader, enfin pour être le leader d'Ineos? Il avait fait
22e à
plutôt,
1,36.
voilà, il avait fait plutôt des bons contre-la-montre, donc on l'attendait, mais là, voilà, 22e à 1,36, on avait senti perdre pas mal de temps sur la fin, surtout. On sentait voilà, que ça allait pas, je pense, une déception. Et ça peut changer aussi la tactique des Sky. On verra les conséquences sur la stratégie hein, dans les jours à venir. Parce que du coup, il se retrouve que je regarde au classement général. Il se retrouve donc, il est cinquième. Il est à 2,52 maintenant d'Alaphilippe. Il a une 25 de retard sur Geraint Thomas, donc son coéquipier.
Et c'est là que c'est dommage, pardon, Charles, de voir Bernal dans une équipe Ineos. Chaque fois, ça me fait penser, toute proportion gardée, si on avait eu Pantani chez Télécom à l'époque.
Ouais,
C'est-à-dire
ouais,
celui qui peut dynamiter se retrouve équipier du grand rouleur.
Après, faut voir, hein. Je pense qu'à partir de demain, la montagne, même si c'est un peu un cliché de dire ça, remettra tout le monde à sa place. Donc, moi, c'est pas le sujet pour l'instant, mais j'ai quand même quelques réserves sur Geraint Thomas. Donc, je crois toujours en Bernal, hein,
Qui
quasi.
perd le maillot blanc d'ailleurs, Bernal, comme on nous le dit sur le chat d'ailleurs. C'est Henrik Maas qui le récupère. Donc voilà, pour ma part, je citerai un flop, c'est quand même les équipiers Ineos, puisque aucun n'a fait le chrono fort. Et du coup, d'ailleurs, leur deux leaders n'avaient pas de temps de passage. Ça m'a surpris qu'il n'y en ait pas un, comme un Kwiatkowski par exemple, qui tente pas de le faire fort, ou un Dylan Van Baarle. Ça m'a vraiment choqué. Alors, je pense qu'il se réserve pour les étapes de montagne qui viennent, mais quand même, je ne pensais pas que ça allait être à ce point. Qu'il y en ait 3-4 qui se réservent, ok, mais tout le monde, ben ça m'a marqué. Je pense, Charles, tu vas peut-être être d'accord avec moi, qu'ils sentent qu'ils vont devoir utiliser les équipiers.
Ouais, c'est pareil. Enfin, comme pour Martine, je trouve que même s'il y a du boulot derrière à faire, il y a un petit manque de respect quand même vis-à-vis de l'institution. Mais après tout, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, mais j'avais un dernier flop. Enfin, t'en avais d'autres, Benjamin, ou pas? Du coup,
Non,
de...
vas-y, si tu veux.
moi, c'était le duo Barguil-Guillaume Martin. En fait, enfin, je trouve
Ah,
que
eh bien tu vois, moi, Guillaume, voilà, premier débat, moi, Guillaume Martin, je le mets dans les nôtres.
bah, je commence par Barguil, alors, du coup, comme ça,
Vas-y.
on aura l'occasion de discuter de Martin après. Warren Barguil, 61e à 3,13. Il a fait le chrono à fond, ça s'est vu lors de l'interview d'arrivée. Et il finit quand même pareil derrière des mecs qu'on pas du tout joué. Enfin, tu vois Yves Lampaert, qui est censé être très bon dans l'exercice, qui fait le chrono en dedans, qui finit devant lui.
Il
Wout
n'était pas
Mollard,
content.
Vincenzo Nibali, qui a fait le chrono aussi en touriste. Maxime Bouet devant Warren Barguil. Enfin, bon, là, il y a quand même des grosses, grosses lacunes, je trouve, sur cet exercice qui sont rédhibitoires hein, en vue d'un classement général.
Ouais, bon. Après, Greg, ça peut peut-être lui permettre d'attaquer maintenant.
Ouais, c'est pour ça que moi aussi, enfin, j'aurais plutôt mis dans les nœuds, dans les moyens, parce que j'attendais pas grand-chose de Warren Barguil hein, sur ce chrono. Après, j'ai une position assez difficile, parce que finalement, il s'accroche dans les bordures, mais... est-ce que lui, il n'a pas besoin enfin, d'avoir un peu de temps, qu'il soit de ne pas être trop près au général, de pas être trop loin non plus, mais de pas être trop près au général pour pas être marqué à la culotte. Donc, franchement, je suis pas si déçu que ça. J'attendais pas, comme pour Guillaume Martin, un contre-la-montre extraordinaire sur ce type de parcours de la part de Warren Barguil.
Alors Guillaume Martin, pour ma part, je l'ai mis dans les neutres parce qu'on ne peut pas dire que c'est un top, loin de là, en perdant 3 minutes sur un chrono. Mais Guillaume Martin, il réalise son meilleur chrono en World Tour depuis qu'il court. Puisque Guillaume Martin, généralement, il est entre 70 et 90 dans les chronos. Cette fois-ci, il est 53e. Je trouve ça, entre guillemets, pas trop mal. Maintenant, il se retrouve loin au général, hein, très loin même, puisqu'il est à 9 minutes. Mais ces 9 minutes vont lui servir, puisque c'est un coureur, on le sait, qui aime prendre les échappées. À partir de demain, on se retrouve avec des étapes, bon, excepté peut-être l'étape de Foix Pradalbi, mais où il y a des difficultés dès le départ, des montées, même si ce n'est pas forcément répertorié, ça va être plus vallonné que les étapes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et donc, ça devrait lui permettre de remonter au général dans ses échappées et en même temps de jouer la victoire d'étape. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. m'embrouille. Après, Charles, c'est sûr que 3 minutes, on ne peut pas qualifier cette performance extraordinaire.
Bah non, pas trop.
On va passer donc au neutre, ni plus ni moins. Mais Charles, si tu veux embrayer.
Ouais, je vais embrayer là-dessus. Après, je vais peut-être aller vite parce que quand c'est neutre, on n'a pas forcément grand-chose. Mais dans l'eau, je mettrais, si j'en donnais deux, je dirais un Patrick Conrad et pourquoi pas un Emmanuel Bourman qui sont plus ou moins dans leur temps de passage.
Greg?
Moi, j'aurais mis dedans Jakob Fuglsang, qui bah, il prend 1 minute, donc c'est bien pour lui, mais enfin, on l'attendait là. Hein. Il perd du temps sur d'autres, il perd du temps sur Mas ou sur Pinot, sur Kreuzweig ou sur Horan. Donc voilà, je pense que c'est bien sans plus hein, pour Jakob Fuglsang d'être à 1 minute du vainqueur.
Charles Fuglsang, est-ce que ça serait pas ses limites sur un grand tour qu'on voit vraiment apparaître?
Ah oui, bah moi c'est ce que je dis depuis quelques semaines quand même, quand je vois que, enfin pas nous, mais que quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on s'enflamme sur Fuglsang, j'ai un peu de mal à comprendre parce que enfin je pense que la forme est derrière lui, on l'a vu sur l'étape, c'était laquelle? C'était Saint-Étienne où il a pas tenu la route à la Philippe et Pinot, on le voit encore là où normalement un Fuglsang des grands jours, enfin le même Fuglsang qu'on a vu au printemps, il aurait dû être dans les temps des Thibaut Pinot, etc. Donc. Je pense qu'il y a une petite baisse de régime qui va s'accentuer au fil des jours chez lui.
Ouais, alors je confesse qu'au début de tour, je le voyais comme le grand favori, mais force est de reconnaître que vous aviez raison, messieurs. Et à note pour ma part, alors ça va peut-être avoir probablement faire débat. Je vois que Kouef a le même. Je mets Geraint Thomas. Parce que Geraint Thomas, bon, il reprend du temps sur tout le monde, hormis Alaphilippe. Mais si on réécoute l'émission d'hier, ou même les précédentes, surtout depuis la bordure d'Albi, si on regarde le forum, ce qu'on disait, je vous prends par exemple sur un Thibaut Pinot, on disait Thibaut Pinot, de toute façon, il va prendre 1 minute de plus sur le contre-la-montre. Il prend que 35 secondes, mais Thibaut Pinot, ce n'est pas le seul. En fait, il y en a beaucoup qui limitent fortement sur Geraint Thomas. Il y a Richie Porte qui est, et Rigoberto Urán qui sont qu'à respectivement 30 secondes et 22 secondes. C'est vraiment pas les écarts que j'attendais de Geraint Thomas. Sur un contre-la-montre qui montre quand même les hommes forts. Alors au début, je me suis dit, il va perdre du temps en descente parce qu'on sait que Geraint Thomas, il a l'habitude malheureusement pour lui de chuter. On se rappelle son dernier contre-la-montre sur le Tour de France l'an dernier. Il a 2 doigts de partir à la faute, ce qui lui coûte peut-être la victoire sur le contre-la-montre. Mais je me suis dit, dernière partie par contre, ça va être récital. Il va reprendre 30 secondes sur tout le monde et montrer qu'il est vraiment fort. Surtout qu'on l'annonce très très puissant depuis plusieurs jours. Et là, oui, c'est très bien, mais Charles.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Benjamin, et je vois que sur le forum, Kef notamment et d'autres, vous pointez aussi le fait que Geraint Thomas, normalement, doit faire mieux et doit faire plus d'écart sur ce genre d'exercice. Quand on voit, tu l'as très bien dit, Ben, qui prend que 22 secondes sur Uran et une trentaine sur Pinot, Porte et Kreuzweig, moi, je trouve que c'est un petit peu décevant. Ça revient un peu à dire ce qu'on explique en fait depuis quelques semaines, quelques mois, le Geraint Thomas version 2019 n'est pas du tout le même que le 2018 qui, je pense, aurait écrasé ce contre-la-montre individuel et on se rend compte que finalement, il n'est peut-être pas si fort que ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne gagnera pas le tour, hein. Je ne m'avance pas là-dessus parce qu'il a quand même une petite avance sur ses principaux rivaux, mais c'était assez symptomatique. Greg en parlait avant l'émission, il y a eu un pointage de Thomas Vauclair qui était à 2-3 bornes de l'arrivée, si je ne me trompe pas. Et il y avait 5 secondes de retard, Greg nous disait justement, et on s'aperçoit
Sur
qu'à
la Philippe.
l'arrivée, ouais, sur Alaphilippe, et on monte à 14, c'est-à-dire que dans le mur final, où ça joue vraiment là sur la force physique, en fait, Geraint Thomas a lâché 9 secondes, donc c'est pas forcément encourageant, surtout alors qu'on n'arrive même pas à la fin de la deuxième semaine. Je trouve qu'il y a des petites lacunes, et demain sera un vrai, vrai test pour Geraint Thomas.
Ouais. Ce qui m'a marqué également, c'est justement au troisième intermédiaire, il a 21 secondes d'avance sur De Rent, si je ne me trompe pas. Là, je me dis, oh là là, ça va finir avec le double pour tous les favoris à l'arrivée. Au final, il finit dans les mêmes temps qu'eux. C'est-à-dire qu'il semble qu'il n'a pas été en mesure d'accélérer sur cette dernière partie où il y avait un mur Oui, Charles.
Ouais, juste pour finir là-dessus, désolé, j'avais oublié. Bah justement, tu disais qu'il n'avait pas gagné de temps dans la dernière partie. Et c'est marrant parce que vous regarderez sur le site Tissot Timing, c'est là où il y a tous les chronos des intermédiaires, etc. Mais on voit que Dorent avait perdu du temps sur les purs rouleurs, sur les Nils Polite, je sais plus. Enfin, il y avait 5-6 mecs comme ça. Et du coup, normalement, Thomas aurait lui aussi dû reprendre ses 5-6 secondes dans cette dernière partie, quoi.
Greg, tu en penses quoi de Guérin Thomas?
Mais il n'a pas écrasé le tour. Hein. C'était un peu la crainte de beaucoup de monde. On se disait, hey, c'est terminé. Le tour va être terminé là à 10h40. Ça sera fini. Ils auront tout. Enfin, Guérin Thomas aura une minute d'avance sur tout le monde, voire plus. Et ça sera terminé. Hop, ça va être la procession Ineos. Ben non, je pense que, comme vous l'avez vu, on ne l'a pas vu impérial sur ce chrono. Alors qu'on pouvait s'entendre enfin, au contraire, justement. Donc, voilà, faut voir, et comme tu l'as dit, Charles, finalement à la fin, il y a l'impression qu'il. Ou alors on en parlera, c'est Alaphilippe qui a tout pété, mais Geraint Thomas n'était pas si fort sur la fin. Donc voilà, bon, évidemment, il fait un super chrono, il fait quand même deuxième, mais je pense que beaucoup le voyaient plus fort que ça. On était beaucoup, je pense, à le voir plus fort que ça, et à voir les jours suivants avec des étapes d'un profil totalement différent, avec la très haute montagne, bien comment ça va se passer.
Tout à fait. Pour vous dire, pour faire un petit comparatif, Geraint Thomas a maintenant moins d'avance qu'il n'en avait au soir de la Rosière où il avait remporté l'étape, où Froome était à 1,25 et Dumoulin à 1,44, tous les autres étaient à plus de 2 minutes. C'est pour vous donner un comparatif, sachant qu'on était donc déjà rentré dans la montagne, la haute montagne, et qu'il n'y avait pas eu de chrono, ce qui a été le cas, on l'a passé ce chrono cette fois-ci. Est-ce que vous avez d'autres coureurs plus ou moins entre guillemets neutres, messieurs?
Non,
Non,
on peut
Charles.
passer
Non.
au
Landa,
Alors,
Valverde, mais bon, c'est.
juste pour ma part, je vais mettre les rouleurs. Les rouleurs, pas du général cette fois-ci, pour l'étape. Les rouleurs qui ont fait de bonnes perfs. Thomas de Rent en premier lieu, peut-être certains d'entre vous l'ont mis dans leur top, donc on en parlera peut-être après. Casper Asgreen, Ross Colfe, Nelson Oliveira, c'est des très bons temps qu'ils ont fait, mais comme souvent sur le Tour de France, encore plus quand c'est une étape difficile, ils sont battus par les coureurs du classement général, Greg, et du coup, ces purs spécialistes ne remporteront pas leur étape, en tout cas pas sur ce chrono.
Oui, c'est vrai. Après, c'est toujours, enfin, c'est toujours particulier parce que certains de gros rouleurs, comme chez les Ineos, ont des stratégies particulières. Donc, mais oui, même ceux qui le font à fond. Après, ça sert de souvent de temps de référence aussi pour nous, savoir quand on regarde les temps d'Oliveira, quand on regarde les temps de Roscoe, ça peut servir pour nous, temps, ça qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'ils sont finalement en dehors de Thomas de Gent, pas dans le top 10. On retrouve après Asgreen, remarqué, ce qui fait 9e, je pense plutôt une bonne surprise là par contre. Mais c'est vrai que, enfin, on va peut-être parler de ce que des favoris qui ont réussi, parce que il y en a quand même qui ont crevé l'écran aujourd'hui.
Oui, et Charles, pour conclure sur les rouleurs, malheureusement, des chutes, Kung, mais surtout Wout van Aert, qui abandonne le Tour de France avec une vilaine chute.
Ouais, pour aller rapidement sur les chutes, il y a Stefan Kung qui a malheureusement chuté et qui aurait pu être dans les temps. On a Max Scharmann qui était pas trop mal, même s'il était un peu en retrait par rapport à De Rent et qui ne repartira pas demain parce qu'il a une blessure assez grave au niveau du poignet, je crois.
Fracture de la même.
Fracture de la main, et bah, Wout van Aert qui a fait une chute assez impressionnante. On n'a pas eu peur, enfin, on n'a pas eu peur pour sa vie, mais on a eu peur à une grosse blessure quand on a vu l'état de sa jambe. Et je crois que Benjamin, les nouvelles sont rassurantes, il me semble
Ouais,
pour lui.
on parle d'une grosse plaie, mais il n'y aurait pas de fracture. Ce qu'on aurait pu craindre, vu comme le genou s'est écarté lorsqu'il a attrapé la barrière, la banderole.
Alors, il n'aurait pas gagné, mais il revenait un peu sur Dorent, je crois, dans la dernière partie. Donc,
Ouais, je pense peut-être même qu'il aurait pu le dépasser, tu
il aurait pu
vois.
faire un podium, quoi.
Parce qu'on sait qu'il commence doucement ses contre-la-montre pour finir plus fort. Et il semblait pouvoir inverser la tendance avec Thomas de Rent. Thomas de Rent qui finit à 36 secondes, donc je pense qu'il aurait fait podium. Ouais. On va passer au top. Greg, on va peut-être garder le maillot jaune pour la toute fin, mais d'autres tops avant cela?
Bah, je pense que Thomas de Gent, pas grand monde l'attendait sur le podium d'un contre-la-montre. Enfin, 2 secondes en même, c'est un excellent rouleur, on le reconnaît plutôt en baroudeur. Et je pense qu'on n'était enfin, pas nombreux à le voir jouer la victoire sur ce contre-la-montre, d'autant plus que c'est aussi un caractère assez particulier de Gant. Il y a des jours où il est bien, des jours où il n'a pas envie. Donc c'est aussi un caractère difficile à cerner. Et là, pour de bon, il a fait le contre-la-montre à fond. Il a longtemps eu le meilleur temps, quasiment presque tout le temps. Il n'a été battu que sur la fin par les deux derniers, Geraint Thomas et Alaphilippe. Donc pour moi, c'est une des surprises parce que autant c'est un gros rouleur, mais le voir jouer la victoire sur cette étape, je pense qu'on n'était pas nombreux à l'attendre.
Thomas de Rennes qui semble retrouver les jambes de 2012, Charles.
Ouais, Thomas de Rennes est impressionnant. Je pense que Greg a très bien décrit le personnage et quand il a envie et quand il est en forme, il est capable de sortir ce genre de performance un peu hors du commun, quoi.
Charles, notre top.
Et oui, pour une fois, Richie
Écoutez, attends.
Porte. C'est beau. Je laisse
Richie
Charles là.
Porte, et c'est l'homme qui dit qu'il n'y croyait plus, qu'il annonce.
Après
C'est terrible.
des années de désillusion, de chute, d'abandon sur le Tour de France. J'ai tremblé dans chaque descente, mais ouais, enfin, Richie Porte fait une vraiment belle performance. Il finit à 45 secondes de Julian Alaphilippe, juste
Cinquième.
cinquième, ouais, et, bah donc dans les meilleurs, puisque devant il n'y a que Thomas et Uran dans les favoris. Donc une vraie belle perte de la part de Porte qui lui fera du bien, j'imagine. C'est dommage qu'il ait perdu du temps comme Pinot lors de l'étape des bordures, mais il est pas mal à voir. On prend tout ce qu'on peut avec Porte, donc je
Et
prends.
surtout qu'il a longtemps rivalisé avec De Gendt, hein, dans les premiers intermédiaires, il était vraiment très près de
Ouais, il n'y a
Thomas De
que sur
Gendt,
la
voire
dernière
limite
partie
devant, hein.
où fallait envoyer les watts, où bah, c'était, enfin, on le sait, hein, Richie Porte sur le plat, c'est toujours un tout petit peu compliqué, donc il a perdu un petit peu de temps, mais sinon, il était très bien. Ouais.
C'est ce qu'on dit, Yakari, en fait. Porte manque de puissance sur le plat et au moment des bordures. Oh, c'est le coureur qui, chaque fois, se fait avoir. D'ailleurs, c'est lui, apparemment, qui est responsable de la cassure juste devant Thibaut Pinot, qui crée le second groupe. Mais que Richie Porte soit dans un deuxième groupe lors d'une bordure d'une telle violence, ça montre qu'il a les cannes. Et en plus, on peut citer son équipe, troisième aujourd'hui au classement par équipe, qui semble armée pour l'entourer. Puisque aujourd'hui, quand même, au-delà de Richie Porte, on peut parler de Bock Mollema, qui finit 36e, ce qui
13e,
est quand même.
non? Ah non, pardon,
13e,
je regarde.
Euh,
13e, oui.
euh, oui, pardon, excusez-moi, je ne suis pas
Ça va être le général, je pense, maintenant.
sur le bon. Non, non, c'est juste que j'étais sur l'étape de la Rosière que j'avais regardé tout à l'heure. C'est pour ça, donc n'importe quoi. Mollema 13e, également Féliné 36e. C'est un équipier qui peut remonter les bidons après un col. Et Ticone, on va voir s'il a bien récupéré, mais. Attention à la trek qui peut être costaude.
Ouais.
Greg, notre non, c'est à moi de le dire d'ailleurs. Mais on va continuer sur les coureurs qui étaient dans la bordure. Le retour du vieux Colombien, certes pas le plus offensif, mais Rigoberto Urán a montré aujourd'hui avec sa superbe prestation. Il finit quatrième à 36 secondes, donc dans le même temps que Thomas de Rennes. Qu'il était de retour, vraiment une superbe performance, Charles.
Ouais, bah Uran, je pense que ça sera. Enfin, après, j'ai du mal à m'avancer parce que j'allais dire ça va être un candidat au podium, mais je viens de me souvenir que la montagne n'est pas encore arrivée, donc enfin, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Mais s'il maintient cet état de forme, moi, ouais, je pense que ça peut être un candidat au podium. Mais encore une fois, on ne sait pas trop ce qui peut se passer demain. Tout peut être chamboulé, quoi.
On l'a vu monter en puissance sur la route d'Occitanie, d'ailleurs, Greg, où il semblait déjà peut-être au même niveau que Valverde, sachant qu'on sait que Urán est meilleur grimpeur que l'Espagnol.
Ben, c'est vrai que c'est un coureur qui a que l'année dernière, il avait enfin, fait une très mauvaise année, après
Ouais.
avoir été sur le podium en 2017. Donc on ne savait pas trop dans quel état de forme il le retrouvait cette année. Et puis, un peu comme toute son équipe d'ailleurs, hein, Education First, qui fait plutôt une bonne année 2019, on le retrouve aux avant-postes, donc à suivre, même si ce n'est pas lui qui va lancer les grandes offensives. Ça, on ne sait pas, c'est pas trop son style, mais peut-être, on ne sait jamais. Il a changé, il va partir au pied du Tourmalet et mettre le feu partout.
Bah, il a déjà un podium. Ça change de 2017. Il l'a déjà fait, ce podium.
C'est vrai, mais bon, c'est vrai, c'est plutôt une bonne surprise. Et donc, on le retrouvera cette année au rendez-vous. Et par contre, il lâchera pas.
Greg, à ton tour, un
Ben, je
autre
dirais
top.
Henrik Maas.
Ah ouais, pareil. Donc, c'est lui qui prend le maillot blanc à Egan Bernal. Comme Alaphilippe, il fait un super temps. Henri Mas, qu'on avait vu un peu en retrait au Tour de Suisse, semble en
Toute cette
progression
année, hein, toute cette
constante.
année, il est en retrait. toute cette année. Moi, je trouve qu'il, alors qu'on l'avait vu bon sur la Vuelta,
Ouais, il a fait une moins bonne saison que l'an dernier, hein, quand même.
voilà, une quatrième place sur le Tour de l'Algarve. Bon, c'est pas, ça n'avait pas levé les foules. On se pose beaucoup de questions, notamment par rapport, vu que enfin, son coéquipier a le maillot jaune sur son rôle. Et je pense qu'on était, moi, je ne le voyais pas faire un top 10. Et c'est vraiment une des, enfin, un de ceux qui vont performer, qui m'ont plutôt agréablement surpris aujourd'hui.
Et en voilà un Charles qui est un vrai grimpeur, souvent on le compare à Contador, beaucoup ceux qui suivent le cyclisme espagnol disent que c'est son successeur.
Ouais.
Bon là il risque de pas attaquer vu qu'Alaphilippe est maillot jaune, mais en voilà un qui peut sucer les roues sans aucun problème de conscience.
Ouais, c'est un très bon grimpeur, Enric Mas, hein, le successeur de Contador, je pense. Hein. Après, il faudra pas être trop dur avec lui s'il se loupe parce qu'il est très jeune hein, et c'est finalement son premier Tour de France. Mais après, je rebondis
Deuxième de la
sur
Volta l'année dernière.
deuxième de la Volta l'an dernier, mais je rebondis sur ce que dit Feu. Ouais, Mas, l'équipier d'Alaphilippe, selon Jalabert. Hein. Je crois que Laurent Jalabert et Nicolas Gé, ils vont finir par monter le fan club de Julien Alaphilippe. Ça sera leur meilleure place, peut-être. Ça sera peut-être moins gênant. Hein. À l'antenne, mais non, Mas sera pas le coéquipier d'Alaphilippe, ça reste le leader en montagne. Après, on verra ce qui se passe, mais normalement, ça fonctionnera pas comme ça quand même.
Oui, surtout que là, en plus, normalement, à la Philippe. Il n'aura pas à courir derrière les attaques puisque les Ineos vont le faire pour lui. Donc, à moins que les Ineos attaquent, ça sera la grande surprise. Mais on verra bien. Pour ma part, ben, en top, ah, ben, ça fait plaisir. Après cette bordure qui va faire longtemps parler sur Albi, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il y en avait beaucoup qui se moquaient sur le forum parce que tout simplement, l'équipe avait dit qu'il avait été malade lors du Dauphiné, mais également de Tirreno lors des deux contre-la-montre individuels World Tour qu'il avait fait cette année. Cette année, là, il arrive en forme, pas trop de problèmes physiques. Pourtant, une première partie avec des descentes techniques, on sait que ce n'est pas forcément son dada. Le voilà quand même dans le top 10 d'un contre-la-montre sur le Tour de France parmi les spécialistes. Septième à seulement 49 secondes d'Alaphilippe, c'est-à-dire à 35 secondes de Geraint Thomas. Thibaut Pinot, Charles, qui semble être, on l'a vu, parmi les tout meilleurs, si ce n'est le second meilleur derrière Alaphilippe lorsque ça montait. Il est à deux doigts de reprendre Geraint Thomas à la fin de la planche des belles filles. Et le voilà maintenant performant contre la montre. Et on peut croire à une gigantesque performance sur ce Tour de France de Thibaut Pinot.
Ah oui, bah après, enfin moi je faisais partie de ceux qui disaient après le coup de la bordure que fallait quand même prendre un peu de recul et que le Tour de France n'était pas fini pour Pinot. Et bah on voit aujourd'hui que de toute façon la forme est là. Donc enfin, physiquement, il a fait une énorme perf. Et ça faisait depuis le Romandie, je pense, et sa victoire sur le chrono qu'il n'avait pas sorti une telle performance sur cet exercice-là. Donc Thibaut Pinot, très très encourageant. En plus, il perd un petit peu de temps au début parce qu'il y a eu un souci d'oreillette ou je ne sais pas quoi qui lui a fait perdre quelques précieuses secondes. Sinon, il serait, je pense, dans les temps un peu plus enfin, entre Uran et Porte. Donc, bah, c'est de bon augure pour la suite. Hein. Demain, il peut gagner. Au Tourmalet, par Bernal, je vois pas trop qui lui est supérieur en montagne. Donc, on va continuer à espérer et pourquoi pas voir un Français remporter le Tour de France.
Greg, est-ce que tu suis Charles dans ses rêves de maillot jaune pour Pinot ou est-ce que tu es plus mesuré?
C'est un peu tôt pour l'instant pour en parler car il a quand même pas mal de retard. Malheureusement, je pense que la bordure, alors d'un côté ça me fait rager, mais je pense qu'on en parlera encore longtemps de cette bordure, ou de cette putain de bordure, devrait-on dire. Mais pour revenir sur l'étape du
Fucking
jour,
bordure.
voilà. Pour revenir sur l'étape du jour, enfin, je sais pas vous, moi ça me fait des bizarres de voir quand on voyait les temps intermédiaires qu'il rivalisait avec De Gendt. Ça fait quand même bizarre d'avoir un Français qui peut presque rivaliser avec un meilleur temps sur un chrono. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas vu. Donc oui, c'est plutôt une belle paire de Thibaut Pinot qui montre qu'il est là, qu'il n'a pas baissé les bras. Et c'est assez encourageant pour la suite.
Qui a de la force. Moi, avant de te passer la parole, Charles, j'ai eu peur au second intermédiaire parce qu'il a commencé à perdre du temps. Il est passé de, je crois, de 5 secondes de retard à 13 secondes, avec en plus le Ah, Thibaut Pinot qui va être meilleur temps. Et puis, en fait, c'est pas la bonne caméra, donc on voit le temps. On se dit, Oh putain, est-ce qu'il va pas faire une Chavanel, c'est-à-dire s'écrouler sur la fin? Et non, il résiste et finalement, il reste sur cet écart jusqu'à l'arrivée. Il finit très fort. Ça m'a vraiment fait plaisir et. En tous les cas, peut-être je serai déçu, mais j'ai vraiment envie de rêver sur la suite de ce Tour de France. Charles.
Ouais, moi je voulais juste signer que je ne dis pas que Thibaut Pinot va gagner le Tour de France, je dis qu'il peut gagner le Tour de France. Enfin, c'est un petit peu différent, parce que sinon je sens qu'on va me tomber dessus si jamais il prend 10 minutes sur une étape. Mais ce que je veux dire par là, et ce que j'essaye de répéter depuis le début, c'est qu'au vu des perfs physiques, il fait partie des mecs, des 4-5 mecs qui peuvent prétendre à la victoire. Et quand on voit que Bernal n'est pas forcément au top sur un exercice chronométré qui est toujours un peu révélateur, surtout quand c'est difficile comme ça, parce que c'est avant tout la forme physique qui joue, que Thomas n'est pas autant impérial, qu'il y a des absents. Peut se dire qu'il peut gagner. Alors, si ça se trouve, il fera cinquième. Si ça se trouve, il fera 45e. Mais en tout cas, il a les armes pour remporter la course et pour renverser le tour en montagne. Donc, c'est à ça que je veux croire. En fait, je voulais juste préciser.
Pour le moment, tout va bien, hormis cette bordure. Messieurs, d'autres personnes pour le top?
Juste un mot sur Kreuzweig. Finalement,
oui,
je
bien sûr.
Presque le même commentaire que pour Pinot, même s'il est meilleur, enfin, il a la meilleure réputation peut-être en contre-la-montre. Ça fait partie des belles performances et lui aussi, enfin, il aurait une équipe assez solide avec lui. Il y aura Georges Bennett notamment, Laurens de Plus en montagne, donc à suivre aussi. Il faut en parler, ouais. Sinon on va se faire engueuler par Daniel.
Juste pour préciser, là je vois sur le chat qu'on dit Bernal a bien fini quand même, il était à 1:15 à peu près à l'arrivée de minute. Bernal il finit à 1:36, hein, pas à 1 minute. Il a tout le temps perdu, mais c'est vrai qu'il a moins perdu sur la dernière partie que sur la première. Un peu comme Dan Martin et Romain Bardet d'ailleurs. Mais c'est vrai que Kreuzweig, il s'affirme comme un prétendant à la victoire également, Charles.
Ouais, Kreuzweig, après, moi, je pense toujours qu'il va être limité à un moment en montagne. Et d'ailleurs, on l'a vu un peu, c'était sur la planche, je crois, où il était quand même un peu en retrait, qu'il avait perdu du temps malgré une très belle position après le chrono par équipe. Donc, je pense qu'il sera dans le jeu pour le top 5, mais plus haut, j'ai quand même de grosses réserves.
Bon, et maintenant, on va parler du top absolu. Je pense qu'on sera d'accord tous les trois. C'est Julien Alaphilippe, maillot jaune sur les épaules. C'était pas arrivé, une victoire du maillot jaune d'un maillot jaune français sur le Tour de France depuis 1989, depuis Laurent Fignon. A-t-on pu lire sur Twitter, c'est David Guénel, l'historien, qui le disait. Julian Alaphilippe, on savait que ce chrono pouvait lui convenir, mais alors, quelle démonstration. Autant sur la première partie, on savait qu'avec les dessins techniques, les remontées, les coups de cul, ça allait l'avantager. Qui résiste sur le plat, déjà c'était beau, mais alors, sur ce dernier kilomètre, sur ce mur, waouh, quelle puissance!
Ouais, ben on sent que la forme physique est là pour Alaphilippe. On savait aussi avant le départ qu'il faisait partie des candidats, peut-être pas à la victoire, hein, mais à un podium sur ce chrono, parce qu'il a déjà montré depuis le début de l'année et l'an passé aussi que quand il avait envie sur un contre-la-montre difficile, il était capable de faire de grosses performances. Alors après, il y en a qui sont surpris. Moi, c'est pas cette performance-là aujourd'hui qui me surprend le plus pour Alaphilippe, pour être tout à fait honnête. Enfin, quand on remet les choses un peu en perspective, on se rend compte que quand même, il y a des mecs comme Martin qui ne l'ont pas fait à fond. Des Kiato, des Castroviejo, qui peuvent aussi être de gros candidats, n'ont pas cherché. Il manque Dumoulin, il manque Roglic. Denis avait quitté la course. Il n'y a pas Froome. Enfin, du coup, les gros candidats sur ce type d'exercice n'étaient pas forcément là, à part Thomas. Donc, très très belle performance, mais pas non plus la surprise du siècle ou l'arnaque du siècle, comme on peut le lire des fois à droite à gauche. Enfin, c'est une belle performance, oui, mais il n'y a pas de quoi crier au loup pour moi aujourd'hui. Quoi.
Alors, avant de passer la parole à Greg, pour concernant Alaphilippe, on a pu le lire sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur ce chat, des gros doutes. Je pense que les doutes à des degrés divers, on en a tous. Par rapport à déjà à l'équipe, le médecin espagnol si célèbre de l'ancienne Sonia Duval, par exemple. Pour le moment, Julian Alaphilippe, j'ai lu sur certains endroits des ah ben c'est bon, maintenant lui aussi il vient de nulle part, mais c'est un Français, on va rien dire. Ça me fait un peu grincer les dents parce que Alaphilippe, c'est quand même un gars qui est parmi les tout meilleurs depuis très vite et qui est quand même numéro un mondial actuellement. Alors, je pense que ça va faire grincer des dents dans les prochaines étapes parce que je ne le vois pas exploser. Mais pour le moment, par rapport à un, je suis désolé de le redire, mais un Chris Froome, ou si on va chercher plus loin, un Lance Armstrong, et si on compare les perfs et l'évolution des coureurs, je comprends tout à fait qu'on ait des doutes, hein, mais c'est quand même pas du tout la même chose. C'est pas un gars qui, de 150e, passe premier. En plus, on n'a même pas atteint la haute montagne. On parle d'un gars qui a quand même déjà gagné les étapes de montagne. C'est attention, c'est pas parce que c'est un Français qu'on doit le porter au nu, mais c'est pas non plus Le gars qui vient de nulle part. Oui, Charles, avant que je passe à Greg, je crois que tu as levé la main.
Juste pour dire un peu ce que tu disais, Benjamin, enfin, est-ce que je vois sur le chat, c'est vrai que moi, je... Ouais. Moi, je... enfin, j'ai envie d'attendre demain, en fait. Enfin, vous le savez, sur l'émission des commissaires de course, on ne fait jamais de diffamation, parce que c'est pas le but, ça ne nous intéresse pas, mais on ne fait pas non plus de langue de bois, et s'il y a un truc qu'on trouve bizarre, on n'a pas trop de problèmes pour le dire, et ce que je disais un peu sur le forum, d'ailleurs, tout à l'heure, sur le topic de l'étape, c'est que moi, j'attends demain. Si demain, Julien Alaphilippe, il gagne au sommet du Tourmalet, là oui, je pense que j'aurai des choses à dire ou des questions à me poser, mais en attendant, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de quoi crier au loup, faut pas non plus tomber dans cette espèce de truc, parce qu'on voit bien que les médias en plus généralistes le font, hein, avec les Cétonès ou je sais pas quoi, on en fait des tonnes, on en fait des tonnes, parce que pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent, et quand même, foutre en l'air le vélo pendant le Tour de France, c'est quelque chose d'absolument génial qui fait vendre et qui fait putaclic chez certains médias, donc... Attendons, tombons pas dans le truc des gens qui suivent le vélo qu'en juillet et on verra demain. Enfin, sincèrement, moi c'est mon ce que je retire en tout cas, c'est que on verra demain.
Greg, à toi la parole. Désolé de t'avoir fait autant attendre.
Non, enfin, je pense là, enfin, faut aussi, je sais pas. Moi, je suis assez épaté par la performance d'Alaphilippe qui a été très très costaud. Il est quand même assez impressionnant. Je pense même. Même si je suis pas le plus grand fan de son équipe notamment, j'avoue que c'était franchement, hein, j'ai un peu vibré aussi, hein, frissonné cette fin d'étape,
Pareil.
le public qui l'acclame, le bruit comme ça, et le voir lancer dans la dernière montée où il était très costaud, parce qu'on a dit que Thomas a flanché à la fin, mais je pense qu'Alaphilippe il a quand même été très très fort dans le dernier raidard à 17%. Il y a de quoi un petit peu frissonner, voir un Français gagner un contre-la-montre sur un Tour de France, pas un prologue. Je crois que j'ai lu hein, que c'était depuis 87, c'était pas arrivé.
De Jean-François Bernard.
Avec un maillot jaune, n'en parlons pas. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Même voilà, enfin, vous trouvez cet enthousiasme dans le public, hein, ça fait plaisir aussi parce que même si nous, c'est vrai qu'on suit même le King Ailek à 7 h du matin, voir que le public s'enflamme pour un coureur comme ça, pour un maillot jaune français, ça fait quelque chose aussi quand même. Même si je le répète. Voilà, la Quick Step, c'est pas mon équipe favorite pour de nombreuses raisons.
C'est pareil pour moi. Comme je disais juste avant l'émission, je reçois des coups de fil, des textos de ma famille qui me demandent est-ce qu'Alaphilippe peut gagner le Tour de France? Il y a des gens qui ne suivent pas forcément le vélo. Ben là, et en plus, avec ce contre-la-montre gagné, ben forcément, ça fait rêver. S'il n'avait pas été français, bien sûr que j'aurais moins vibré. S'il avait été Ineos, je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu derrière, j'aurais été beaucoup plus vindicatif que je le suis maintenant. Alaphilippe, il perd une minute normalement demain, Lige. Ben, je suis pas sûr parce qu'Alaphilippe, il peut très bien s'accrocher, finir à 20 secondes demain, comme prendre 5 minutes parce qu'il se sera trop accroché. Et que Alaphilippe, il monte dans le rouge, il peut rester longtemps et puis d'un coup, boum, ça dégage. Donc je sais pas. Charles.
Ouais, alors mais Greg, il s'est même pas permis de le faire, je comprends pas. D'ailleurs, je suis sous le choc. Greg, qu'est-ce qui s'est passé ce matin au King Kai, juste pour faire un HS de 3 secondes et demie?
Victoire de Grosso,
Eh oui, la troisième victoire de
troisième
Delco
victoire de
Marseille.
Delco, et il y a eu des bordures et tout au milieu de la steppe chinoise, c'était magnifique.
C'était magnifique. Bref, je
Voilà,
retourne sur le
on
Tour de
y va
France.
de
C'est
France
juste le
parce
petit
que
clin d'œil à Greg pour les
c'était pas
Delco.
voulu donc. Mais ouais, Alaphilippe, pour le moment, on attend de voir bien sûr, mais en fait, ce qu'on pronostique peut parfois tellement ne pas se passer et au final, on arrive à trouver des raisons d'un sens ou dans l'autre. Si on avait parlé de la bordure d'Albi et dire ah non mais Uran porte et puis non on le voit prendre plus d'une minute sur Albi, il y en aurait plein et nous les premiers qui auront dit mais c'est pas possible, ils sont trop près tout ça. Et finalement, et inversement, qui aurait dit que Geraint Thomas, après le peu de compétition qu'il a, serait le premier des favoris sur la planche des belles filles? Personne. Et pourtant, on a trouvé les raisons, ceci, cela. Alors bien sûr, plus on trouve de raisons, plus ça sent mauvais. Donc attention, Charles, oui, je te laisse.
Ouais, puisqu'on passe à l'étape de demain, on va avoir le débat justement du scénario et c'est intéressant parce que je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Moi, j'allais juste dire pour rebondir sur ce que tu disais, Ben, c'est que bah, pour moi, c'est le Team Ineos qui a la clé demain en fait. Pour Julien Alaphilippe, s'il y a une lente procession et des attaques à 2 bornes du sommet, bah c'est sûr que Julien Alaphilippe, il sera toujours en jaune, mais moi j'y crois pas trop. Et justement, après, je te refile la parole, parce que je sais que tu as une opinion différente sur le sujet. Et dites-nous, vous, ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais moi, je pense que la Ineos, depuis quelques mois, ils ont tendance à changer un peu de tactique. Et Et je pense qu'il va y avoir un gros train demain dès le pied du Tourmalet. Et un Egan Bernal qui va sortir assez rapidement pour essayer de foutre le feu. Parce que je pense que on commence à avoir peur d'Alaphilippe chez Ineos. Et c'est quand même une équipe qui réfléchit beaucoup, qui se trompe très rarement tactiquement. Donc je les vois vraiment foutre le feu et attaquer très très vite. Et ne pas non plus procéder à une espèce de train avec une micro-attaque avant le sommet.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Alors peut-être sur le Tourmalet, mais pour moi, ils n'ont pas le dernier étage de la fusée que pouvait être Froome. Hein. Puisque Froome, bon, on l'a vu et ça a fait parler, pouvait mettre des attaques suicidaires, non, mais meurtrières.
Suicidaire pour les autres, ouais, c'était ça.
Ouais. Geraint Thomas, je ne le vois pas capable de faire cela, encore moins cette année. Et Bernal, il est derrière les autres favoris. Je pense que Ineos serait plus pour le moment. En tout cas pour cette étape de Tourmalet qui est assez courte. Des alliés pour Alaphilippe. Et je vois plus des coureurs comme Bardet, Landa ou autres être les problèmes pour Alaphilippe parce que c'est eux qui déclencheraient le plus la bagarre et pour certains peut-être dès le Soulor. Greg, tu en penses quoi toi?
Bah, tactique, enfin, j'ai essayé d'un peu chercher, mais j'ai pas eu trop le temps. Depuis quand, la Ineos n'avait pas le maillot jaune à la 13e étape?
Est-ce
C'est-à-dire,
que c'est pas en 2017 quand il
avec
l'avait
Arou, hein,
perdu
je crois.
par Arou, mais ils étaient pas si loin, enfin, il y avait
Eh
quoi que.
si, si,
Si?
si, parce qu'il y a eu les Vosges avant. Et Arou reprend le maillot jaune dans les Pyrénées, ça tout le monde s'en souvient à Peyragudes. Et il le perd à Revel. Alors je ne sais pas,
Sur une
Revel,
cassure en plus, hein. T'es mal
ouais,
placé. Hein.
Oui, mais il avait eu un petit peu avant, t'sais, il le perd à Peyragudes, mais.
Il le prend, alors il le prend, c'est l'étape 12. À l'étape 13, il a toujours Arou, et c'est à l'étape 14 qu'il le perd.
Et il le prend à l'étape 12, mais il a que 6 secondes d'avance sur
Voilà,
Froome,
c'est ça.
c'est-à-dire.
Là, c'est pas plus d'une minute.
Voilà, donc c'est assez particulier tactiquement aussi. Je suis assez curieux de voir comment ils vont s'organiser, même s'ils vont faire leur train. Moi, je l'attends, ça. Et que je pense qu'ils vont voir, ils vont regarder ce que fait Alaphilippe. À mon avis, Alaphilippe, il va être scruté de tous les côtés. Mais c'est vrai que là, ils se retrouvent dans une situation où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été.
Ben, surtout Greg, en plus, quand on regarde l'équipe Ineos cette année, il n'y a pas Mikel Landa qui avait en 2017 pour foutre le boxon, il n'y a pas Froome, il y a Thomas, il y a Bernal certes, mais imagine que Bernal attaque. Alaphilippe ne suit pas, mais Mas va dans la route Bernal. Mas qui est devant Bernal au général. On fait quoi chez
Eh
Ineos?
ben,
Est-ce
c'est
qu'on
pour ça que
laisse
je pense
Thomas
que
perdre du temps?
je vois pas moi Bernal
C'est
attaquer.
épineux. Épineux. Ben, maintenant, Charles, il faut que Mas, par exemple, suive Bernal, ce qui peut encore gagner.
Oui, ce qui est pas gagné, je pense.
Donc on verra bien, mais justement parce que l'heure tourne, on a vraiment dépassé les limites de l'émission. On va passer au pronostic. Pronostic
Ouais, t'as
où en tête
demain du
il y a...
Tourmalet un petit peu quand même.
Eh?
Historique, un Tourmalet historique.
Mais je l'espère. J'espère et tu me diras si c'est historique avec ton
Ouais,
vainqueur.
on a encore 13 minutes avant d'arriver à l'heure, donc on est bon, on a un petit peu
Ouais. Donc Théo, Greg, Alexandre Pahut, Alexandre Rollet qui sont toujours en tête derrière Katmapel, Olivier C, Charles. Je mettrai le reste du classement de toute façon en commentaire de la vidéo comme d'habitude. Donc aujourd'hui, trois pronostics à faire. Le premier, c'est le vainqueur de l'étape. Ça, vous êtes au courant, vous savez comment ça se passe. Le deuxième, c'est la place d'un coureur à 5 places près, la place de Alaphilippe. Et enfin, pour rendre entre guillemets hommage aux équipiers, eh bien, il va falloir choisir entre plusieurs coureurs que je vous marque sur le chat. Kwiatkowski, Chérel, Mollard, Soler, De Puys et Bilbao. Lequel de ces équipiers finira devant les autres en haut du Tourmalet demain? Et on passe directement au pronostic. Donc Greg, c'est toi qui engages. Qui sera le
Alors,
vainqueur pour toi?
vainqueur de l'étape sera Guillaume Martin qui partira dans l'échappée.
Alors Guillaume Martin, ouais.
Ensuite, la place d'Alaphilippe,
Oui.
11e.
11e. Et enfin, parmi les
Ça
équipiers.
sera Bilbao.
Bilbao, Charles.
Moi, je vois Thibaut Pinot qui sort assez vite aussi dans le Tourmalet parce qu'il allait remonter comme une pendule et qui remporte l'étape devant Bernal. Et ensuite, c'était quoi la place d'Alaphilippe? Je
Oui,
dirais.
à 5 près.
Allez, 27e.
Ouf.
Et le dernier, je dirais Lorenz de plus.
D'accord. Alors pour ma part, j'ai longtemps hésité entre Landa et Pinot pour la victoire d'étape. Je me suis dit, oh, haut les cœurs, rêvons. Donc je mets Pinot, comme Charles. La place d'Alaphilippe, bon, je le mets 8e, parce que je le vois faire une très très grosse montée. Ça va donc beaucoup parler demain soir. Et pour la place des équipiers, j'ai réfléchi auquel se relever le plus vite quand ils avaient fini leur travail ou quoi. Donc je vais mettre Rudy Mollard. J'hésitais entre Chérel et Mollard parce que Chérel peut partir en échappée, mais j'ai choisi Rudy Mollard. Oui, Charles?
Ouais, alors un petit pari complémentaire que je te soumets, Benjamin, qui comptera pas forcément pour le classement, mais on n'a pas dit en fait, est-ce qu'on voit Alaphilippe toujours en jaune demain ou pas?
Moi, je le vois toujours en jaune.
Dites-nous hein,
Moi
sur le chat
aussi.
aussi d'ailleurs.
Je le prends pas dans les paris parce que c'est un oui ou non, en fait.
Ouais, non, là, c'est juste pour le
Mais
fun, hein, parce qu'on a
ouais,
oublié le
moi
jeu.
je pense parce que je suis pas sûr que ça monte si vite chez les favoris, ça beaucoup se regarde. J'ai peu, enfin, ça dépend de quel côté on se place, mais je pense que ça va beaucoup se regarder, notamment, enfin, je parle entre lui et Thomas, je pense que ça va se marquer. Peut-être qu'on verra d'autres attaquer, mais je pense que Thomas et Alaphilippe vont pas mal se regarder. Lui, il va marquer Thomas. Lui, il va rester accroché, je pense, à la roue de Thomas. Donc, je le vois rester en jaune. Après, je pense qu'il y aura d'autres attaques, mais Thomas, enfin, Alaphilippe va essayer de s'accrocher à Thomas.
Et toi, Charles, par contre, toi, tu le vois perdre le maillot. Parce que 27e, bon, après, tu me dirais, il peut y avoir une échappée, mais s'il finit 27e avec les favoris, je pense que c'est terminé. Il prend 5 minutes.
Bah en fait, c'est con, mais j'hésite parce que, enfin, j'allais dire oui, je le vois perdre le maillot, mais je me demande quand même si Thomas est si fort que ça. Et quand on regarde le général, on voit qu'il y a Thomas à une 26, donc c'est lui le plus dangereux, mais derrière, on passe direct à plus de 2 minutes quand même. Et
Et
c'est des
j'ai
mecs
peur que
pas
les autres
fiables, tu vois.
soient.
Moi, Kreuzweg, j'y crois aussi moyennement en masse.
Mais en fait, j'ai
Bon.
peur pour Kreuzweg qu'il ait peur du traineo, c'est que s'il attaque, ce soit dans les
Ouais.
3 derniers kilomètres, tu vois.
Et du coup, derrière, les mecs sont quand même assez loin, tu vois, c'est 3 minutes et quelques, donc il peut finir un petit peu loin, genre si ça se trouve à 20e, tu vois, au 30e, à la Philippe, mais c'est pas pour ça qu'il va prendre plus de 4 minutes. Donc du coup, je dirais qu'allez, je le vois quand même en jaune demain.
Et on va terminer l'émission par la question de feu. Est-ce que vous le souhaitez qu'il garde le jaune? Moi, je vais dire oui, clairement. Mais après, c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que ça va dépendre beaucoup également de comment va se dérouler l'étape. Quel temps d'ascension. Si ça attaque dès le pied du Tourmalet, et si on attend les 5 derniers kilomètres, comme je le pense. C'est sûr que si après il sort tous les coureurs de sa roue, ouais, ça va être
À
compliqué.
la Birneris.
À la Biarritz. Mais voilà. C'est. Je sais pas. On verra. On verra, ça dépendra. Est-ce que vous souhaitez qu'il gagne une étape?
Bah pour
Non.
l'intérêt du vélo, non, quoi.
Je pense pas, mais je le vois pas. En fait, je le vois pas. Je vois pas comment il peut gagner
Mais
l'étape.
après, pour répondre plus sérieusement à la question de feu, est-ce que vous souhaitez qu'il garde le maillot jaune? Enfin, sincèrement. Je crois que Benjamin a un peu esquissé la bonne réponse pour moi. C'est tout dépend du scénario. Si on pète le record d'ascension du Tourmalet et qu'il garde le jaune, là, peut-être que la réponse serait non. Mais si par contre, comme dit Benjamin, ça attaque à 1 km, 1,5 km, voilà, la réponse sera un peu différente, je pense. Donc, enfin,
On verra, on
on
attend
verra,
de
ouais.
voir. On vous dit à demain du coup pour débriefer tout ça. Pour les pronostics, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Même si c'est votre premier que vous n'avez pas participé jusque-là, il n'y a pas de souci. Il y a des points à marquer, il y en aura d'autres en 3e semaine. On n'est pas si avancé que ça parce
On
qu'on
est
n'est pas
nul en
très bon.
prono, donc vous pouvez vite nous
Donc
rattraper.
ça coûte rien. C'est histoire de faire un petit fil rouge. Bonne soirée tout le monde. À demain, on sera dans la montagne. Enfin, bye bye.
À demain, bye bye.
Salut!